podcast.com. Essaye ça.
Hey, salut tout le monde, bienvenue à Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic the Gathering. Mon nom c'est Tommy Godet, je suis accompagné par mon fidèle Nounours, ainsi que trois humains, hein. Il y en a deux sur trois qui ont des lunettes. On va commencer par celui qui n'a pas de lunettes. Salut Joe Gauthier, comment ça se passe?
Ça se passe bien, la vie va bien, Brothers War avance bien, c'est un set le fun à drafter. Puis, tant qu'à être là, je vais vous parler rapidement de ce qu'on écoute comme musique cette semaine.
C'est ça que tu sors, let's go!
Let's go! Fait que ce qu'on écoute aujourd'hui, c'est Master Spy, un beau petit jeu old school indépendant où ce que le but, c'est de se rendre jusqu'à la porte sans se faire voir, sans se faire toucher. Le soundtrack est super bien composé à mes oreilles. Puis, là, je pense qu'il y a une vente sur Steam, fait que profitez-en, achetez ça à rabais, puis vous allez passer une belle journée.
Ah, bon, ben merci, on en reparlera à la fin de l'émission. Merci d'être mêlé au groupe pour la soirée. On va passer par Emmanuel. Salut, man!
Bonjour!
Puis?
Ben ouais!
Puis?
Ben là!
Alright! Et Jason Keys, notre sphinx, il est content. Notre sphinx qui va nous tartiner de lore un petit peu tout ce qui s'en vient. On finit tout ça aujourd'hui, le Brothers War, finalement?
C'est l'avant-dernier. Je pensais le faire en trois shows, mais c'est plus. Je veux le faire bien. Hein. Comme je pourrais le faire en 10 shows, mais il faut que je coupe à des places. Mm-hmm. Je pense que je suis capable de closer ça en 4 shows facile. Parce que j'ai hâte de parler d'autres choses aussi. Là, mais c'est quand même vraiment le fun. J'ai du fun à creuser cette set-là. Je suis allé le drafter la semaine passée encore. Vous autres, Jonathan et Eman, en avez-vous retouché un peu?
Un petit peu sur Arena, ouais.
Ouais, comment tu trouves toujours.
Correct.
Non? Tu as l'air à être. Vas-y.
Ben, ça faisait longtemps, c'est rare que j'ai cette curve-là. Les deux premiers seals que j'ai fait la première journée, j'ai fait genre 6 et 3 puis 7-2. Mm-hmm. Ça a super bien été. Après ça, j'ai comme pas pu rejouer une couple de jours. Puis après ça, j'ai recommencé. Puis là, ça a été vraiment pas super bien.
Oh!
Fait qu'on verra. Mais finalement, le set semble être beaucoup plus aggro qu'on pensait.
Oui, ça je suis d'accord. C'est, on disait que ça allait être slow, là, mais on s'est trompé.
Ouais.
Jonathan, t'as touché un peu?
Mon truc, ça a été de prendre les Blast Zone. Parce que c'est bon, les Blast Zone.
T'as-tu joué, Tommy?
C'est là.
Ah oui, je suis en train d'en faire un. Là, j'ai gagné mes trois premières games.
Puis comment tu trouves ça?
Ben, à date, j'aime ça. Je trouve ça cool.
Ouais, t'as fait quelle couleur?
Je pense que je comprends. Là, je suis bleu-vert.
Le vert, Power Stone.
Pas tant que ça. Là, moi, j'ai l'affaire, le portail phyrexien là, de la semaine passée. Ça, je l'ai, là, mais j'ai plus construit autour de Teferi, celui qui tu piges une carte. Là.
Oui.
Puis la Blast Zone aussi, ça, c'est super bon.
La Blast Zone, c'est tant bon. Ça, on va en parler d'ailleurs en fin de show aujourd'hui et dans le storyline.
Spoilers.
Ben écoute, vraiment quelqu'un veut dire d'autres mots sur Brothers War?
Non.
Non. Non.
Non. Je veux dire, on va en parler tout le.
Bon, oui, c'est ça. Non, moi, je voulais féliciter, en fait, Patrick Burke, là, qui est déjà venu à notre show de temps en temps, couple de fois. Moi, j'ai eu un excellent samedi passé. Je suis allé au Chaos Con, qui était un tournoi que lui organisait à Ottawa. C'était une journée complète de Old Border. Là, on faisait du Old School en après-midi, puis du pré-moderne en soirée. C'était dans un bar à Ottawa, et tout le cash ramassé était donné à une banque alimentaire. Donc, c'est un événement de charité. On a ramassé 2553$, ce qui pour du Magic est quand même beaucoup. Et c'était vraiment le fun. On était 40, il y avait des gens de Montréal, il y avait des gens de Toronto, et il y avait aussi des gens. C'est pas mal ça. Ah oui, il y avait quelqu'un de Sherbrooke aussi. Il a dû trouver la route longue un peu. C'est pas mal cool. Là, moi, en old school, j'ai terminé 8e sur 40, fait que j'étais content de ma journée. Puis. C'est vrai, j'aime vraiment ça, ce format de vieille carte-là. C'est le Magic un peu plus simple que ce qu'on a de nos jours. Et jouer dans un bar, je pense que, tu sais, de toutes les façons de jouer à Magic, là, je pense que jouer dans un bar, c'est le top. C'est, tu sais, on était assis, tu es en train de jouer, là, tu te commandes une bière à la serveuse. c'était une belle ambiance, c'est le fun, le monde était de bonne humeur même quand il perdait, puis vraiment belle journée, félicitations guys à tous ceux qui ont participé.
Bon, voilà, c'est dit. Puis finalement, c'est qui a gagné?
C'était un gars de Ottawa. Là, il avait fait un deck d'Armageddon, là, classique. Là. Armageddon puis Armageddon. Il pétait toutes les LAN, puis là, tu pouvais plus rien faire.
Là, ouais,
c'est ça la vie. Hein. Mais on a eu du fun. On va se replonger dans le lore. Hein. On va y aller pour la troisième partie du Brothers War. Non, c'est pas ça que je voulais. Si vous écoutez en format YouTube, ben, il est sur YouTube. Sinon, ben, checkez l'album des cartes dans la description du show. Je vous ai sorti ici la carte de Terizior, hein, qui est le continent où se passe la Brothers War,
ouais.
Qui était dans le vieux duelliste là, en 1994, qui était sorti en même temps que Antiquities. Puis vous allez remarquer que tous les noms propres qui sont sur cette carte-là sont sur les cartes de Brothers War. Ils ont vraiment fait une bonne job, je trouve, de respecter ce qui avait déjà été fait, tu sais. On voit la ville de Yotia là, qui avait été détruite dans notre épisode la semaine passée.
Ouais, par le gros dragon.
Ouais, le fameux désert, le Kerridge, qui sont les montagnes de Sarpadia. Sardia. Et ce qui va devenir éventuellement après le Ice Age, le fameux Carplusan Forest, hein, qui est le Double Land de Dominaria United. Fait que c'est pas mal. T'sais, moi, j'ai aimé qu'ils ont respecté ce lore-là. Puis on va voir beaucoup de ces noms-là dans l'épisode d'aujourd'hui. Quand on s'était laissé, je vous avais mentionné notamment sur la carte Corrupt, comment Mishra était de plus en plus infiltré par les Phyrexiens. Ça, c'est quelque chose qui était... Tu sais, j'ai tout le temps dit, là, le Brothers War, c'est là que les Phyrexiens ont été introduits comme les vilains de Magic. Et je suis vraiment content là, que pour le 30e de Magic, c'est redevenu le vilain principal. Puis qu'on va passer tout l'hiver aussi et le printemps avec eux autres à les combattre dans leur nouvelle incarnation de New Phyrexia. Mais pour ce qui est de Brothers War, hein, c'est les Phyrexiens old school qui sont uniquement dans le noir. Dans le set Antiquities, là, il était présent, tu sais, il y avait les Priests of Yagmoth et le Yagmoth Demon. Il n'y avait pas encore les cartes légendaires à l'époque, mais dans Brothers War, le Yagmoth Demon, ils l'ont réincarné sous la forme de, c'est le Gix, Yagmoth Praetor, qui est un prêteur des Phyrexiens old school, si je peux me permettre le terme. Ça, cette carte-là, c'est vraiment Gix, bon.
C'est un nom qui revient souvent.
Oui, Gix, c'est le nom propre là, du démon, en fait, qui a contacté Mishra,
ouais.
Est en train de l'infiltrer pour le convaincre de réunir les deux pierres, là, le Weak Stone et le Meek Stone. Le Weak Stone et le Might Stone, parce que c'est ce qui va lui permettre, en fait, d'ouvrir un portal vers la Phyrexie pour envahir complètement Dominaria. C'est le fameux Portal to Phyrexia. Le Gix Yagmoth Praetor, hein, c'est un 3-3 pour 3. À chaque fois que tu as une créature qui fait du dégât à un de tes adversaires, cet adversaire-là peut payer un de vie pour piger une carte. C'est ça? Hein,
c'est wordé bizarre encore à cause du Commander. Hein? Là. C'est, mettons en duel à chaque fois qu'une de tes bébites fait du dégât. Tu peux payer un de vie pour piger une carte.
Ah oui, c'est le contrôleur de la créature. Ouais,
c'est wordy weird, là, c'est parce que tu targetes un. Tes adversaires, quand ils tapent tes adversaires aussi là, en multiplayer, ça s'active. Ouais,
je l'ai jamais vu en action.
C'est le contrôleur de la créature qui a fait les dégâts, qui peut payer.
C'est wordy vraiment bizarre. Ouais. C'est weird. Trop de texte. Puis sinon, mais tu peux payer 7. Encore là, hein, c'est l'obsession de. Du chiffre 7 dans Brothers War, tu discartes X cartes puis tu exiles X cartes d'un adversaire, de la librairie d'un adversaire. Tu peux jouer les lands et casser les spells sans payer les mana costs de ces cartes-là que tu as exilées. Donc c'est puis ça, tu peux le faire plusieurs fois. By the way, tu peux comme à chaque tour là, tu tapes 7 lands, tu jettes mettons ouais, deux cartes, tu checks ces deux
cartes. Carte en main. Là.
Oui, mais je veux dire, tu sais, c'est
à chaque
c'est,
tour
à chaque tour pour 7, tu enlèves ses prochains mettons tu l'as vu faire un scry. Oh. Tu peux fucker son game plan pas mal.
Ou tu fais ton deck bleu-noir avec
des card draw.
Card draw, ouais.
Oui, voyons. Ouais, c'est
avec
ça.
Des wheel effects. C'est vraiment cool comme carte.
Ça, pour faire piger des cartes aux autres, moi, tu peux devenir le héros.
J'aime pas le artwork, par contre. Je trouve que c'est un peu bizarre la façon dont ils l'ont dessiné. Là. Tu sais, c'est un Phyrexien, là. Mais je trouve pas qu'il... sa face me gosse un peu la façon dont ils l'ont dessiné. C'est cool par contre qu'on voit les cultistes de Gix là, qui sont à genoux en avant.
Ah oui, ils aiment ça eux autres, là, Amenza du Gix.
Mais... C'est ça va, Jonathan?
C'était pas lui. Ah non, je le mélange avec Volrath, hein. C'est lui qui avait la grosse.
Ouais, Volrath, c'est dans Tempest.
Ouais, Volrath, c'est le gars qui.
C'est pas un démon, hein, Volrath. Ouais.
Sérieusement, je préfère le redesign que l'œuvre originale. L'œuvre originale, on dirait qu'aussitôt qu'il dessinait d'un autre plan que de profil, ça fonctionnait pas. Puis, tu sais, il y avait comme deux coups, genre, t'avais sa colonne vertébrale qui tenait.
Tu parles de Gix dans Urza Saga?
Ouais. Le Gix original, genre, il, à mes yeux, il fonctionne à peine. Fait que là, ouais, je trouve que peut-être la tête de mort dans sa face est peut-être un peu trop on the nose, puis ses longs tubes rouges n'ont pas l'air super utiles, mais comme tel, je trouve que c'est une nette amélioration au design original que. On dirait que si même les illustrateurs ne savaient pas comment dealer avec le.
Ouais, moi je trouve que c'est le moins beau des Praetor à date.
Ah, ça, ouais, ça.
Je trouve pas que c'est très réussi. Ouais. Mais bon, on n'est pas juste là pour parler d'or. Hein. D'or, on va continuer. Il y avait sa carte accompagnatrice qui est le Gix Command, parce que chacun des personnages principaux ont son command. Ça coûte 5. Tu choisis 2. Hein. Soit tu mets 2 counters +1/+1 sur une créature à Lifeling et Talon of Turn. Soit tu détruis toutes les créatures qui ont un power de 2 ou moins. Ça, c'est un bon board wipe. Soit que tu ramènes 2 créatures de ton graveyard dans ta main, hein, Raise Dead. Ou soit que chaque adversaire sacrifie une créature qui a le highest power qui contrôle. Ça, c'est tout le temps bon, cette carte-là. C'est first pick, puis je sais pas si ça va jouer du jeu en construit minimalement dans le sideboard. C'est quelque chose que tu veux, là.
Ouais, c'est pas pire. J'aime ça.
Ça va, Simon?
De ramasser 2 créatures de ton graveyard dans ta main, c'est super bon à limiter.
C'est un peu là pour le construit, là, puis il y a pas de deck où est-ce que je trouve que ça fit vraiment, là.
OK.
Mais oui, en limité, pas mal toutes les commandes, c'est des first pick. Je te dirais qu'elle, c'est la deuxième meilleure après la Titania's Command qui est juste busted.
Ouais, on va
Titania's Command, il paraît qu'il y a 4 modes, là, mais il y a juste 2 modes. Là, c'est créer 2-2-2 puis mettre 2+1/+1 counter sur toutes tes créatures et t'as gagné la game, là, c'est fini. Là.
Ouais,
deux autres modes, on le sait pas c'est quoi.
Merci Titania. Ouais. Le Scrapwork Rager.
Ouais, le Scrapwork Rager, ça c'est cool. C'est si vous faites ça dans le draft, si vous faites l'archétype bleu-noir qui est de piger une deuxième carte dans ton tour, tu veux te pogner un ou deux Scrapwork Rager. C'est un 2-2 pour 4, c'est un peu cher. Et tu piges une carte et tu perds une vie, mais il y a Unearth. Fait que tu sais, déjà là, si pendant 2 tours de suite, tu veux faire ta synergie de piger 2 cartes dans un tour, ben Scrapwork Rager te permet de le faire pendant 2 tours s'il était mort, mettons. Hein.
Ouais.
Et ce que ça représente, en fait, c'est ça, c'est que en arrière de l'armée de Mishra, les Phyrexiens sont de plus en plus présents. Ils ramassent les cadavres de la guerre et les machines et ils les mergent ensemble pour commencer à faire des Phyrexian Horror. Puis, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais le Scrapwork Rager, ça continue. By the way, c'est une commune, là, c'est facile d'en pogner plusieurs. C'est la suite d'un cycle qui avait été commencé dans Invasion. Les fameux Phyrexian Rager qui a été reprinté plusieurs fois pour représenter les différentes itérations de la Phyrexie. Il était dans Invasion, dans Scar of Mirrodin, ça c'était le New Phyrexian, et dans Dominaria United en tant que restant de l'invasion. Ouais. Et ça a tout le temps été ça, là, pour un 2-2 pour 3 que tu payes une vie et tu piges une carte. Ça a tout le temps été pas pire en limited. T'sais, c'est pas comme une bombe, c'est pas. Mais en limité, ça a tout le temps été, tu piges une carte, t'as un body 2-2 pour te défendre et attaquer, et étonnamment, cette carte-là est plus forte que ce qu'elle en a de l'air à première vue.
Ben, elle se remplace, fait que déjà, c'est un bon bonus, là, puis perdre un d'énergie, on s'en fout un peu, fait que c'est très thématique phyrexien, là. Il arrive, puis déjà, il te donne des promesses contre de la souffrance, c'est ça.
Et c'est ça, c'est vraiment fait pour. C'est vraiment comme le gros signe là, qui dit il y a des Phyrexiens dans ce set-là. Mm-hmm. On est en terrain connu. L'un des aspects, hein, j'ai mentionné la guerre, tu sais, elle fait comme une escalade et elle est de plus en plus industrielle. Et comme j'avais mentionné, toutes les machines fonctionnent avec des Power Stone, la mécanique Power Stone du set, qui sont en fait les vieilles batteries de l'ancienne civilisation des Tran. Et il y a plusieurs cartes qui font référence au fait que ça commence à être... il n'y en a pas illimité des Power Stone. Donc, tu sais, comme le Stone Retrieval Unit, qui est un 2-3 pour 4, quelqu'un qui rentre sur Battlefield, il crée une Power Stone. Il mentionne dans le flavor text, les automatons peuvent être reconstruits, mais les Power Stone ne peuvent pas être reconstruits.
Ah, on va manquer de gaz.
Et le Slagstone Refinery, qui est juste un artefact que soit quand lui ou un non-target artefact et va dans le graveyard ou est exil, tu vas créer un Power Stone. C'est une espèce de d'usine à créer des Power Stones. On voit une espèce de tapis roulant là, dans une genre de d'usine qui a clairement un look très Mishra, hein, tandis que le Retrieval Unit a un look plus Urza.
Ouais.
Donc, c'est cet aspect-là, c'est que la guerre devient un peu... une guerre pour le contrôle des Power Stones. Puis c'est pas grave si le monde meurt, les machines sont détruites, si on les reconstruit. L'affaire que Urza et Mishra sont incapables de faire, c'est des Power Stones. Fait que ça devient... T'sais, et l'effet secondaire de l'utilisation des Power Stones, c'est qu'ils créent de la pollution. Dans les vieux romans, ils mentionnaient que c'était l'huile phyrexienne. Ils ont équilibré ça un peu dans l'histoire réadaptée moderne, parce que sinon ça n'aurait pas de sens de mettre du infect partout. Vous allez voir le artwork dans Brothers War, il y a comme des espèces de fumées vertes. Je sais pas comment le décrire là, mais c'est pas mal toutes les cartes que je vais montrer ce soir là. Ils ont de la fumée verte qui suit le sol, qui sont une espèce de fumée toxique qui est dégagée en fait par les Power Stones,
bon.
Les mesures qui sont utilisées. Et ça endommage en fait le plan de Dominaria. Là. C'est un peu un prélude là, à la destruction que ça l'amène. Donc, la semaine passée, on avait vu que Urza, sa ville s'était fait détruire. Il avait comme perdu un peu la première manche là, de cette guerre-là. Et il va monter la coalition, le Iron Coalition, qui est mentionné dans les flavor texts. Et à l'entremise de ces différentes villes-là qui encerclent le désert, il va commencer à produire en fait des robots. Comme la semaine passée, c'était des guerres entre humains là, qui se stabaient avec des pics et qui se battaient dans des tranchées. Là, on rentre dans une nouvelle phase là, de la guerre entre les frères, où ce que là, c'est des machines. Fait que t'as plusieurs cartes que c'est Urza qui construit des usines, et ça fait référence à des cartes semblables qu'il y avait dans le vieux set d'Antiquities. Ben oui. Fait que le Mishra Workshop a été refait sous le nom de Urza Workshop, un peu moins fort, mais néanmoins, ça fait un mana colorless, ou sinon, c'est un Metalcraft que tu payes, tu crées un mana colorless pour chaque laine Urza que tu contrôles. Et tu peux seulement l'activer si tu contrôles 3 artefacts, ça c'est pas un problème.
Puis il n'est pas legacy, là, il n'est pas legendary, fait que tu peux en avoir 3 de ça, puis ça te fait.
Ouais, je vais te montrer jusqu'à combien tu es capable de monter, mais c'est vraiment beaucoup. Je t'inviterai par contre avant à lire le flavor text de Mishra Workshop.
Ben oui, c'est une carte de 93. Ouais. Malgré qu'il ait éventuellement appris à détester Tokazia, Mishra l'écoutait bien. Écoutait bien ses leçons sur la clarté de la fonction. Contrairement à son frère, il focussait son esprit sur un but simple.
Sur un seul but.
Unique.
Ramasser la pierre. Ouais. Dis-nous maintenant la même leçon, mais selon Urza.
Urza eventually came to understand Tokaja's lesson on clarity of purpose. Perfection became his goal and all other matters fell away in its pursuit. La perfection, lui, c'est ce qu'il a vu dans la... C'est pas l'esprit focusé, c'est la perfection qui est devenue son but et toutes les autres manières d'interpréter la clarté de la fonction sont parties. Hein, pis,
c'est compliqué voilà. Un petit peu, hein, Tommy?
Ben oui, mais c'est beaucoup des gros mots, mais c'est important là, parce que c'est la philosophie de chacun qui change. Là.
Ouais, je trouve ça nice.
C'est un peu comme dans les cartes Uncommon, là, que Mishra, lui, il arrive Ace, puis là, c'est un Master Excavator, mais l'autre, c'est un Master Artificer. Genre.
Qui construit sur le long terme. J'aime vraiment cette espèce de miroir avec 30 ans d'écart entre les deux, là, le Mishra Workshop et le Urza Workshop.
Ouais.
C'est vraiment cool. Ils avaient refait un peu, là, c'est en 2008, quand ils avaient fait le Mishra Factory, qui était de 94, mais ils avaient fait le Urza Factory en 2008, qui était un LAN Urza. Donc ça, c'est un LAN que tu peux ajouter dans ton LAN Count avec le Urza Workshop. Et sinon, les autres qui ont été rétroactivement changés pour le nom de LAN Urza, c'est les fameux Urza Mine, Urza Power Plant et Urza Tower. Et ça a tout le temps représenté cette phase-là de la guerre qu'on est rendu. C'est la guerre devient une masse production. Fait que tu sais, quand t'as tes 3 LAN ensemble, tu fais 7 mana colorless. C'est pour caster des gros colossus que Urza construit et que Mishra déterre. Et ils ont refait en fait le Urza Power Plant, le Urza Tower et le Urza Mine. Ils ont été refaits parce que tu sais, j'avais callé, vous vous souvenez, en septembre, qu'ils ont les reprint les Urzatron dans Brothers War. J'étais ouais. convaincu parce que je voyais le chiffre 7 annoncé un peu partout. Je me suis gouré vraiment mais totalement. Non. Totalement. C'est encore une fois, mes prédictions se font tasser. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont reprinté des artefacts qui sont un hommage. Fait que t'as le Mine Worker, le Power Plant Worker et le Tower Worker. Qui sont des Assembly Workers, hein, comme les Mishra Factory. Et dans le fond, le Mine Worker, c'est tu tapes pour. C'est tout c'est un 2 pour 1, 2, 1 pour 2. Tu le tapes pour gagner une vie. Puis si tu contrôles le Power Plant Worker et le Tower Worker, tu gagnes 3 vies à la place.
C'est quand même cool, ça.
Ouais,
là, ça veut dire que si tu as la Mishra's, peux-tu revenir? Ça donne à des.
Tu peux t'en servir pour les pompes.
C'est ça, tu peux booster tes Assembly Workers qui sont là, Assembly Workers. Donc, je commence par le Mine Worker. Following his hunger for knowledge and power from the past, Urza starve Dominaria's future. Ah, ben oui, hein. Suite à son envie dévorante pour les sagesses du passé, sagesse et puissance du passé, Urza a affamé le futur de Dominaria.
C'est, il creuse là, les ressources. Là.
Ben ouais.
Gros message écologique là-dedans. Ben, le Power Plant Worker, tu payes 3 pour y gagner plus 2, plus 2. Puis si tu as le Mine Worker et le Tower Worker, tu mets 2 counter plus 1 à la place. Tu peux seulement le faire une fois.
Mechanical workers toiled away tirelessly fueling the impossible. Ben oui, fueling the impossible. C'est donc ben hot ces phrases-là. Hein?
Ouais.
Les travailleurs métalliques qui touillaient
sans fatigue.
On réussit à faire carburer l'impossible.
Carburer l'impossible, ouais, c'est pas un coup. Puis le Tower Worker, on voit qu'il est en train de... Ce qui est nice, le Tower Worker, c'est que c'est le même robot qu'il y a dans le vieux Urza Mine.
Ben oui.
Et là, il est en train de nettoyer une Urza Tower avec une brosse, comme dans un car wash. C'est un 3 pour 3 que Reach. Tu peux le taper pour faire mana colorless. Et si tu as les deux autres, il fait 3 mana colorless à la place.
Et even Urza's most mundane creations share this obsession with perfection. Ben oui, le robot, il est en train de nettoyer quelque chose. Là, on est à la guerre, mais on fera pas ça les fenêtres sales.
Ouais, vous remarquez que tous les robots de Urza dans le set sont propres.
C'est vrai.
Sont propres de leur personne.
Le signpost dans le bleu-vert, hein, que quand tu drafles, c'est la créature dorée dans une commune en deux colorless, un vert et un bleu, pour un 3-4. C'est un Human Artificer. Ça représente un des employés de Urza qui travaille dans ces usines-là. C'est les créatures que tu contrôles, tu peux les taper pour faire un mana colorless, pour faire des spells non-artefacts. Dans le fond, c'est comme s'ils transforment tes créatures en Power Stone. Et à chaque fois que tu casses un artefact spell qui a un value un mana cost de 6 ou plus, tu piges une carte. Donc ça, tu peux bâtir autour de cette carte-là quand tu drafts, notamment là, pour ramper vers des grosses créatures, parce que Urza, ce qu'il fait, c'est la carte Mass Production. Là, il se rend compte, s'il veut battre Mishra, là, faut qu'il construise plus de robots que lui. Fait que c'est un sorcery pour 6, tu fais 4 soldier artefact token 1-1. Ça dit dans le favorite text, j'ai besoin d'une armée, pas d'un chef-d'œuvre. Accélérons la production, peu importe ce que ça va prendre.
Ah, il pile sur ses principes, là.
Ouais.
OK. C'est ça que ça fait la phyrexie, hein?
Ouais.
Même si ça te touche pas directement, ça te pervertit indirectement.
Parce que c'est son frère, il rend la vie difficile. Cette guerre-là est difficile. Fait que là, les puis j'aime, vous allez voir, il y a comme une progression. Parce que, tu sais, on se rappelle, la semaine passée, c'était toutes des armées d'humains, mais avec des genres d'exosquelettons. Là, puis
ils ont commencé à rajouter des gros canons, puis à un moment donné, c'est devenu des robots géants.
Mais là, au début, c'est des. Là où ce qu'on est rendu, c'est des humains qui se battent aux côtés de petits robots, comme le Phalanx Vanguard, qui est un 2-2 pour 2 vigilance. Quand un artefact rentre sur le battlefield, il gagne plus 1, plus 0 until end of turn. Ça dit The Cool Sleek Automaton Beside Her Mirror Her Own Iron Resolve. Donc l'automate cool et sleek, c'est comme parfait un peu là. À côté d'elle était un miroir de son sa résolution
sa volonté de faire.
Fait que tu voyez là, il commence à avoir comme des robots, mais là les robots vont devenir de plus en plus gros hein. De son côté, Warlord Elite, ça représente, c'est plus les du bord de Mishra hein, parce qu'on voit les robots en arrière, ils ont des bouts pointus, puis quand les robots ont des bouts pointus, ça c'est Mishra. C'est 4-4 pour tout. Ça c'est vraiment bon là en commune là.
Moi, c'est
vraiment
excellent.
C'est vraiment trop fort ce carte là. Un 4-4 pour 3. À chaque fois que pour le caster, faut que tu tapes deux artefacts untapés ou des créatures ou des lands que tu contrôles. Dans le fond, il peut.
C'est comme une espèce de convoke weird là.
Ouais, c'est comme un convoke weird, mais je trouve que ça marche bien. Surtout qu'il est commun, je ramasse plusieurs.
C'est surtout qu'elle se glisse dans l'archétype de mana value 3 ou moins à cause de cette affaire-là. À cause de cette espèce de faux convoke.
Ouais.
Fait que tu sais, des cartes comme Recommission qui te permettent de ramener sur le battlefield une carte de mana value 3 ou moins avec un +1/+1 counter. Ça coûte 2 là. Fait que là, tu payes 2 puis tu te ramènes une 5-5 en jeu. Là,
ça fonctionne très bien.
Ça le fait.
C'est la job.
Ouais.
Vraiment bonne carte. Et c'est ça, là, tu sais, éventuellement, ça devient du Mechanized Warfare, de la guerre mécanisée. Un enchantement, un colorless 2 rouge. C'est une source rouge ou d'artefact que tu contrôles, fait du dégât à un adversaire ou un permanent qui contrôle. Ça fait 1 de plus aux dégâts. Et dans le flavor text, ça dit au début, les automatons renforçaient des escouades qui avaient perdu trop d'hommes. Bientôt, ils les ont remplacés complètement. Fait que la guerre tue tellement de monde qu'à un moment donné, tout ce qui reste, c'est des machines. Des machines contre des machines. Puis vous voyez, là, le ciel commence à être. Tu sais, il y a des gros nuages noirs au-dessus du ciel. Il y a du feu à terre. C'est vraiment, tu sais, ça fait très Terminator 2, là. Le artwork, je sais pas
si ça va. Ouais, ça va pas bien. Là. Les humains, ils ont pas l'air d'avoir de fun dans ce monde-là.
Et c'est ça. Et éventuellement, c'est ça. Ça vient des gros comme le Argivian Avenger, qui est un 5-5 pour 6. T'sais, ça, c'est vraiment simple comme carte. Là. C'est un shapeshifter artefact. Tu peux payer un colorless until end of turn. Il va avoir moins 1/-1, mais soit flying. T'en repays un deuxième, il va gagner vigilance. T'en repays un troisième, il va gagner death touch ou juste un de ceux-là, hein, ou haste. Tu peux lui donner le choix de la mécanique que tu veux. Ça, c'est en fait, c'est comme une réinterprétation du Urza Avenger de Antiquities, qui est exactement la même chose.
OK.
Oui. Le Urza Avenger, c'était un 4-4 pour 6 qui faisait ça. T'es donné -1/-1, puis il gagnait une des habilités. First Strike, Bending, Flying, Trample. Incapable de se setter sur un seul design, Urza a décidé de faire une entité versatile avec un cool artwork de Amy Weber. Mais le Argivian Avenger dans Brothers War, c'est à peu près la même chose. Puis tu vois, c'est le même flavor text. Sauf qu'au lieu de dire l'autre, c'était une entité versatile, là, c'est une myriade de machines adaptables. C'est vraiment cool. J'aime tous ces clins d'œil-là. Là, ça
coûte un colorless pour trigger un pouvoir, tandis que l'autre, c'est 0, mais il est 6-6 à place d'être 4-4. Fait que ça reste viable. OK. Mais 4-4, ça aurait pu être 5-5.
C'est nice. C'est nice. Et éventuellement, les robots vont devenir de plus en plus gros. Hein. Autonomous Assembler, on voit là, comme à quel point les humains sont petits autour. C'est un 4-5 pour 5. Ça, je l'avais pogné dans mon pre-release. C'est vraiment fort. Il y a prototype à 2-2 pour 2. Hein, je devais parler prototype, c'est au début, quand tu as passé une mana, tu le casses en prototype. Mais éventuellement, tu le casses comme un 4-5, il y a vigilance et tu peux payer un colorless pour mettre un counter +1/+1 sur un target assembly worker. Ça, c'est exactement la même, sensiblement la même mécanique que le Mishra Factory.
Ben oui.
C'est vraiment nice. Puis là, on voit le gros robot, il est en train de mettre un gros Power Stone dans le chest d'un autre gros robot. dans le vieux Antiquities, ils avaient ces gros colossus-là. Le colossus de Sardia, c'est un 9-9 pour 9 qui avait Trample et pour l'untaper, il fallait que tu payais 9. Bien sûr, tu faisais pas ça, là, tu jouais Twiddle par exemple. Ça disait qu'ils venaient des montagnes de Sardia et on avait établi que les montagnes de Sardia c'était habité par des nains. Dans le Brothers War, les reprints, les vieux artefacts que t'en as un par booster. Là. Le Howling Mine, ils mentionnent, ils ont refait le Howling Mine dans Brothers War. Et dans le Flavor Text, ça mentionne les nains de Sardia avaient ont laissé leur superstition prendre la place du sens commun. Il restait beaucoup de fer dans la montagne et nous ne devions pas les laisser aller les gaspiller.
Gaspiller, mais oui.
Puis ça dit, c'est la dernière dispatch de Bolgon, le Argivian Surveyor. Argive, c'est la ville d'où vient Urza. Dans le roman, il mentionne que... c'est un des passages qui m'a marqué dans ce roman-là. C'est que tout ce que je suis en train de vous parler, là, les machines commencent à remplacer les humains. Dans le roman, au début, Urza s'en rend pas compte, malgré le fait qu'il supervise ces constructions-là.
Ah oui.
Puis là, il demande à Bolgon qu'est-ce qui se passe avec ce qu'on a demandé aux nains, parce que c'est les nains des montagnes Sardia qui fournissent le fer pour construire les Colossus. Puis le Bolgon, son messager, il mentionne ça fait longtemps que les nains n'existent plus. Là. C'est comme dans les montagnes de Sardia, à cette heure, c'est des machines qui creusent. C'était Urza même. Et puis là ça choque Urza.
Ben comme... oui, mais c'est ça, l'industrialisation. Il a pas lu le roman.
Ouais.
Il avait écrit Tolkien, c'est à peu près tout
C'est probablement mon passage préféré dans ce roman-là. Ah. Puis effectivement, c'est très inspiré de tu sais, la gang qui a créé Magic, c'était des gauchistes, là. En 94, là, Antiquities avait quand même un gros message environnemental dedans, là.
C'est bon,
ça. Ça continue de nos jours.
Ouais, c'est pour ça que je suis rendu de l'extrême gauche radicale.
Fait que c'est ça, les Colossus de Sardia sont de retour dans Brothers War. Le Depth Charge Colossus, c'est un 9-9 pour 9. Ça, c'est le fun à caster, c'est une commune. Hein? Fait que si t'as pas assez de mana, ben, tu peux le caster en 6-6 pour 6, mais c'est le fun de le caster en 9-9.
Ben oui,
c'est. Puis comme le Colossus de Sardia, tu vois, il untap pas à ton untap step. Sauf que là, ils sont un peu plus raisonnables, faut que tu payes 3 pour l'untap.
C'est gentil.
C'est un beau power creep. Je sais pas si tu te rappelles, Tommy, toi, je sais que tu jouais au début des années 2000 avec Phyrexian Colossus, qu'il fallait que tu payes 8 vies.
Ouais.
Pour l'untapper, qui était aussi un 9-9 pour 9.
Ouais,
ma belle. C'est les temps changent. Hein? Puis ça, c'est commune, là.
Ouais. C'est vrai. C'est
vraiment
vrai.
Power creep.
C'est vrai. Mais c'était pas mal souvent juste des monstres avec du gros power pour pouvoir les transformer en.
Puis là, lui, il n'est pas trample. Je pense que le Colossus de Sardia était trample au moins. Lui, tu le bloques avec un 1-1. C'est pas un si gros problème que ça.
Ça l'occupe. Il est quand même hot, le design. J'aime bien gros ça.
Ouais, j'aime ça. Il sort de la mer. Puis on voit sur la plage, ils ont mis des genres de trucs pour le bloquer. Là, des genres de. Comment ils appellent ça? Des dents de dragon, je pense qu'ils appellent ça.
Des mines aussi.
Ouais. Et il y a plusieurs cartes qui mentionnent que les robots sont aussi recyclés, hein, comme le Repair and Recharge pour. Ça, c'est du côté de Urza. On voit des espèces d'ornithoptères qui hissent avec une grue, un vieux colossus qui est détruit. Tu payes 5, tu retournes un artefact, un enchantement, un Planeswalker directement sur ton battlefield et tu crées un Power Stone. Ça dit dans le Flavor Text, débarrassons-nous du corps. Ça va juste nous ralentir pendant qu'on ramène le reste. C'est signé Rolf Argivian Mechanis. Et du côté de Mishra, c'est No One Left Behind, où qu'on voit un gros colossus de Mishra, là, sur des bouts de pointu, comme j'ai mentionné. Tu payes 5, il coûte 3 de moins si tu ramènes une petite créature qui a un mana cost de 3 au moins. Tu ramènes une créature de ton graveyard directement sur Battlefield. Et je vous fais remarquer que sur les deux dessins, on voit l'espèce de nuage vert créé par les Power Stones que je parlais tout à l'heure.
Ah, c'est vrai, t'as raison.
On le remarque sur plusieurs cartes là, de champ de bataille, cette espèce de nuage vert toxique. Les gros colossus que Mishra a, lui, c'est pas qu'il est construit, c'est qu'il est déterre. C'est des vieux artefacts Tran qui modifient dans ses Mishra Factory, comme le Blitz Automaton. Moi, ça, j'aime vraiment beaucoup cette carte-là. C'est 6-4 pour 7 et prototype pour 3. Elle a haste. Pendant que les machines d'Urza préféraient la défense, les machines de Mishra étaient construites pour finir la guerre rapidement. Donc, il y a toute une série là, de Colossus de Mishra. Le Heavyweight Demolisher, tu as un 8-6 pour 7 avec menace. À ton upkeep, tu dois taper Heavyweight Demolisher à moins que tu payes 3. C'est un peu comme l'inverse du Depth Charge, hein, on se rappelle?
Ouais.
Que je parlais tantôt. Là. Et il y a Unearth pour 8. Donc, s'il va au graveyard, tu le ramènes avec l'archétype que tu auto-mille. Moi, j'ai eu beaucoup de succès avec celui-là. Il est uncommon, cependant.
Ça me dérange pas, finalement, qu'il y ait du Unearth dans toutes les couleurs. Parce qu'avant, c'était comme noir-rouge, là, tu sais. Puis ça, c'est mes couleurs. Mais je veux bien partager avec le vert, puis le blanc, puis tout. Là, c'est correct.
Mais Unearth, je sais pas, est-tu dans les 5 couleurs dans cette?
Oui.
Ouais?
Ah oui, il y en a dans toutes les.
Je sais qu'il est majoritairement dans le rouge et le noir. C'est, ils l'ont laissé. Mais je sais que comme le Annulette qui est dans le blanc, là, il y a Unearth aussi.
Ça, c'est correct, je le partage avec vous autres.
Mais c'est en même temps, c'est justifié par le qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. T'sais, il déterre des vieilles machines Tran. Fait que tu sais, ça sort pas de nulle part. Là. Ils ont pas juste dit, ah ben tiens, le blanc maintenant Unearth. tu sais, il y a un travail intellectuel en arrière pour le justifier. C'est quand même cool. Les deux dernières cartes avant qu'on se voit à la carte de la semaine, il y a deux cartes, un cycle là, qui s'annule un l'autre. C'est le premièrement, c'est le c'est quoi Onslaught? C'est le massacre. Non, pas c'est le massacre, c'est un Onslaught, c'est une
charge.
La charge de Mishra. Où est-ce qu'on voit des robots, les robots de Mishra, là? Puis vous remarquez, ils ont des faces faites comme des grues, des plots, là. C'est un instant, c'est soit que tu choisis que tu fais deux soldats à artefact 1-1 ou que toutes tes créatures ont plus 2, plus 0. Puis il se dit dans le favor text, ha! Urza a sous-estimé ma force à nouveau, signé Mishra. Et son pendant en commune aussi, c'est, moi j'aime beaucoup cette carte-là, Urza Rebuff, c'est le counter spell du set. Un colorless 2 bleu, soit que tu counter un target spell ou tu tapes deux créatures. Et ça dit, comme d'habitude, moi, les manœuvres de mon frère sont trop impulsives, signé Urza. Puis on voit le dessin, c'est similairement la même chose. Là. C'est des armées de robots qui se rentrent un dans l'autre.
Mais ça, t'es en train de se chicaner. Arrêtez donc de chicaner.
C'est la grosse guerre. C'est la grosse guerre.
Oh, et ça nous amène à la carte de la semaine, présentation de l'adversaire. Peuple ludique au 4303 Sainte-Catherine-Est. Vous irez dire salut à Emmanuel une fois de temps en temps.
Yeah.
C'est quoi qu'on va faire? On va écouter.
Qu'est-ce qui se passe à l'adversaire ces temps-ci, Emmanuel?
Écoute, c'est le temps des fêtes qui s'en vient. Là. Ouais. On est dans le jus.
Ouais. Comme je confirme qu'il y a du magic à l'adversaire, jeu de son.
Bon,
vous irez voir ça.
Vous irez voir ça.
Vous irez jouer. Non, les gens, ils ont des c'est decks. Si vous allez, là, ils vont vous prêter un deck, c'est pas un problème.
Ouais, là, ça va être de la.
À 7h le soir.
Sinon, beat à bone, là, carte de la semaine. J'ai hâte de savoir c'est quoi. J'espère que ça va être une carte rouge.
Une carte que tu as déjà joué, Tommy. Tu nous en as déjà parlé. C'est une carte que vous avez tous déjà trop vue dans le passé. C'est une carte que j'ai joué beaucoup avec samedi. Qui,
Ivory Tower.
C'est une vieille carte là, de 1994. Et la raison pourquoi je l'ai pris, en fait, c'est pas juste pour old school, là, c'est qu'il y a peu de cartes dans Magic qui font cet effet-là. Et c'est un effet que je trouve très intéressant. Un instant, yo, me partage l'écran. Ok, je l'ai ici.
Le suspense est insoutenable.
Ouais, excusez-moi, je suis mélangé dans mes affaires. J'ai bâti en fin de semaine un deck mono noir comme d'habitude. Et en old school, un des problèmes, c'est que tu sais, on a beaucoup de cartes qui ont deux manas du double noir. Black Knight, Order of Ibonen, Imtuturak, Sinkhole, c'est tout. Ça coûte tout double noir. Et le vieux Magic Old School, il y a beaucoup de land destruction. C'est très commun le land destruction dans ce format-là. Et aussi, tu veux jouer 4 Strip Mine, 4 Mishra Factory. Fait que souvent, t'es fourré quand tu joues mono noir parce que tu vas piger 2 Swamp et 1 Mishra Factory.
Ouais.
Qui est colorless. Là, tu mets ton premier Swamp, il te le pète avec son spell de pétage de land. Puis là, t'es fourré, tu peux plus caster tes spells. Pis ça, c'est quelque chose qui m'arrivait souvent en old school. Je trouvais que c'est la principale faiblesse du deck mono noir. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un underdog qu'on a vu souvent dans notre jeunesse. C'est la carte de la semaine. C'est le Initiate of the Ibonen, qui est une carte très... les gens snobent beaucoup. C'est un 1-1 pour un noir qui vient de Fallen Empire. Et ça fait pas grand-chose à première vue, mais il y a pas beaucoup de cartes dans Magic qui fait cet effet-là de la façon dont lui le fait. C'est-à-dire que tu peux payer un mana colorless, n'importe quelle couleur, pour transformer ce mana-là en mana noir. T'as pas besoin de le taper. Tu peux le faire pendant qu'il est en train d'attaquer. Tu peux le faire pendant qu'il est tapé. Tu peux le faire pendant qu'il est untapé. N'importe quand. La seule limitation, c'est que si tu le fais 4 fois, il meurt. Tu sais, dans le fond, il vient comme s'il était trop gonflé. Mais tu peux en crisser 10 dedans parce que c'est à la fin du tour qu'il meurt.
Fais-le ton drain life. Fais-le
ben, c'est
ton
ça.
Petit drain life.
Fait que moi, mon deck, j'avais mis 4 drain life main deck. Et je me suis rendu compte là, que en mettant premier tour mon Initiate of the Ibonen, puis après ça, si je sortais un Sol Ring, un Mishra Factory ou un Strip Mine, j'avais pas de problème à faire mes Imtuturak. Puis j'étais comme, waouh, c'est vraiment génial comme effet. Et après ça, quand je suis revenu chez nous, tu sais, comme j'ai fait un excellent score, j'ai fait 4-1. Et parce que j'ai pas été manascou de la journée, là, malgré le paquet de land destruction qu'il y avait, quand je suis revenu, je me suis dit, il y en a-tu fait d'autres des cartes comme celui-là? Dans l'histoire de Magic, on pourrait utiliser en Legacy, par exemple, faire des build-around. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même pas pire. En tout, il y a 5 autres cartes dans Magic qui font des effets similaires et pas plus. Puis, apparemment, ils ont peur de cet effet-là. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est qu'il faut que la créature elle tape, puis là, elle change la couleur de ton mana. Mm-hmm. Ou que tu payes 2 pour faire 1, right?
Emman? Ouais. C'est vrai.
Donc, Initiate of the Ebonen, c'est du 1 pour 1. T'avais l'agent de Stromgal, que c'est du rouge pour du noir. T'avais le Bug Initiate, que lui, il avait pas la limitation de 4, ça c'était dans Invasion. Dans Tempest, il y avait le Sky Shroud Elf, qui changeait du colorless pour du rouge ou du blanc. Et dans Lorwyn, c'était la même chose pour du rouge et du noir. Donc, ça, c'est les 5 cartes qui font... Orochi Leafcaller aussi, dans le vieux Kamigawa, qu'il change du vert pour la couleur que tu veux. Puis là, après ça, c'est de voir, tu sais, y a-tu de quoi d'intéressant qu'on pourrait faire avec ça? Toi, je sais que Tommy, tu m'as déjà mentionné que dans un deck avec des Urzotron, que tu utilisais ton Initiate pour casser des gros démons qui avaient beaucoup de casting costs et du upkeep noir.
C'est certain, oui, j'étais là, man. J'étais au front, moi, tout cet temps-là. Là.
Peux-tu raconter 5 secondes?
En fait, à l'époque, là, pas mal la seule manière de fixer ton Urzotron, c'était avec. Démonic Tutor, fait que
tu sais, puis on veux dire pas aller le chercher, ouais.
C'était, on savait pas qu'il y avait encore une limite, fait que j'avais 4 Démonic Tutor, j'avais 4 chacun des lands, j'avais 4 Initiate of the Ebon Hand, puis c'était pas mal, tu une coupe de swamp, puis sinon c'était juste des gros démons l'autre bord, là, avec 4 terreurs, parce que ça prenait des terreurs pour tuer les Calice d'Ange. Vous autres, vous étiez pas là quand que. En tout cas, c'est ça.
Ben ouais, c'était le même samedi.
J'ai gardé des Initiate of the Ebon Hand dans mon deck de qui a pas d'upkeep aussi jusqu'en 2015-2016.
Avec le Ion quelque chose, là?
Ouais.
Le Ion dans l'artefact dans Mirodin qui fait qu'il n'y a pas d'upkeep, fait que t'as pas besoin de payer ton Lord of the Pit.
C'est ça. Mais plein de gros démons, puis
Ah, c'est cool. Mais sinon, dans le peu plus. Oh, by the way, tu peux faire un channel. Tu veux faire un channel Drain Life, là.
Ah, ben
tu le crises dans ton Initiate of the Ebonen. Tu t'enlèves 19 vies, tu fais un Drain Life de 16. Pas mal cool. Et tu gagnes des vies au lieu d'en perdre. Fait que tu sais, ça s'équilibre. Mais sinon, dans Legacy, un combo que ça me tente vraiment d'essayer là, bientôt là, pour faire du mana infini. C'est en fait, c'est Initiate of the Ebonen avec un Gravecrawler qui est un 2-1. Que quand il est dans ton graveyard, tu peux le recaster si t'as un zombie en jeu, ça c'est facile. Tu peux le ramener de ton graveyard. Fait que dans le fond, tu le sacrifies pour ton Ashna d'Altar. Ashna d'Altar, tu sacrifies une créature pour créer deux mana colorless. T'envoies ton graveyard. Tu sacrifies ton Gravecrawler, ça va dans le graveyard. Tu prends un des deux mana qu'il a créé, tu le crises dans ton Initiate of the Ebonen, ça devient un mana noir. Tu ramènes ton Gravecrawler, tu le sacrifies à nouveau. Et comme ça, tu fais du 2 pour 1. Hein. Fait que t'as tout le temps un mana de libre et tu peux faire des whatever, là, si tu veux faire des gros fireballs, casser des grosses affaires. Tu peux le mettre en loop aussi avec le Nether Traitor, qui est un 1-1 pour 2 noirs shadow, quand une autre créature s'en va dans le graveyard, là, par exemple, quand tu sacrifies ton Gravecrawler, tu peux payer un noir pour ramener ton Nether Traitor du graveyard. Fait que t'as toutes sortes de petites façons comme ça, là, d'abuser, là. Tu sais, avec, mettons, là, tu fais un deck de zombies qui est Enter the Battlefield, là, comme Champion of the Perish, Corpse Knight, qui draine de vie ton tous tes opponents à chaque fois qu'une créature rentre en jeu. Ben, tu sais, tu peux tuer, faire quand même pas pire, là, en multiplayer avec, mais tu sais, le problème, c'est d'avoir du mana noir. Puis la seule façon d'avoir du mana noir à l'infini, ben, c'est de le filtrer à travers un Initiate of the Ebonen.
Ebonen. Ben oui, c'est sûr. Tu sais comment il y avait la compte. Bonne carte de la semaine, Jason. Un commentaire des deux autres.
C'est vrai.
Le dessin, il était cool. On va écouter le beat à bonde, puis on retourne dans le lore de Braz War. Hey, fait que là, il va-tu avoir la Blast Zone? T'as parlé de la Blast Zone?
Oui.
Comme ça, on est pété des affaires avec
toi. Mishra, il se dit, là, ça me prend du fuel là, pour gagner cette guerre-là. Là. Vous remarquez la Double Land Underground River, qui est le Pain Land bleu et noir dans Antiquity. Ça marque cette période-là. Hein. Chacun des Pain Land, la semaine passée, c'était celui qui avait les tranchées dans le blanc et vert. Là, dans la zone, dans le conflit qu'on est rendu, là, ça commence à être pas mal dévasté. Il y a de l'huile un peu partout. Vous voyez la fumée verte aussi, là, les genres de lucioles vertes chimiques. Ça dit la guerre. Dans le Flavor Text, la guerre polluait la terre, transformant ce qui était autrefois des champs pleins de fruits en morasses fétides et des cadavres rouillants signés des Antiquities War. Fait que tu sais, il commence à avoir manqué de place, là, qu'il y a des ressources neuves. Hein, le continent est en train de se faire dévaster par la guerre. Il reste une place d'irréductible gaulois. C'est le bon vieux Ivory Tower.
Oh, c'est l'Ivory Tower.
L'Ivory Tower d'Antiquities, hein, ça, c'est le bon vieux artefact qui coûte un, que tu gagnes un devis pour chaque carte de 4 que tu as plus. L'Ivory Tower, c'est une cité qui est un peu plus loin que les autres et qui regarde cette guerre-là aller, hein, du dos de leur tour d'ivoire, puis qui se disent, Chris, va falloir qu'on fasse quelque chose. Le Ivory Tower a été réprinté pour Brothers War. Hein, on voit dans le flavor text, ça dit encerclé par des murailles en pierre blanche, la ville de Thérésia était une ville de scholarship, hein, d'enfants des
étudiants.
Ben, ouais, c'est plus comme des savants.
Ouais, des chercheurs.
Ou la magie promettait un futur brillant. Et un futur brillant à un monde qui est en train de se faire dévorer par les artefacts. Donc, la troisième faction dans Brothers War, ça s'appelle le Third Path. C'est les Sages of Latnam, qui était aussi une carte dans Antiquities. Ils reviennent sous le nom de Latnam Adept dans Brothers War. C'est les Wizards. Hein. Je vous avais mentionné, j'avais insisté la semaine passée, que Urza et Mishra ne font pas de la magie. Ils construisent des machines, ils mettent un Power Stone dedans, puis c'est ça qui crée la magie dans la machine. C'est le Power Stone qu'ils ont déterré à terre. Les Sages de Latnam, eux, ils ont développé la magie. En fait, c'est sur Dominaria, c'est les premiers à avoir compris comment les cinq couleurs fonctionnent.
OK.
Et c'est pour ça qu'il y a le Creature Type Wizard. Donc, le Latnam Adept, un 3-3 pour 4 dans une commune. À chaque fois que tu piges ton deuxième carte dans ton tour, tu y mets un counter +1/+1. Chaque livre est une porte vers Enlightenment. C'est quoi Enlightenment? C'est les lumières. La curiosité est la clé. Tu sais, des belles petites phrases vraiment cute. Puis on voit, il fait flotter un livre qu'il est en train de lire. Et vous remarquez les Ivory Tower, hein, derrière lui, là, on voit en arrière-fond.
Ah oui, c'est vrai. Il y a le mystérieux Ivory Dome aussi. Là.
le boss de cette gang-là, c'est Drafna, le fondateur de Latnam, qui est un autre légendaire dans le rare, un Artificer Advisor. Drafna, lui, c'est un artificier, il comprend les artefacts. C'est un 2-1, tu peux payer 2 pour retourner un artefact que tu contrôles dans ta main ou payer 3 copier un target artefact spell que tu contrôles. Ça dit, à côté de sa femme Urkil, Drafna a bâti un legacy de savoir qui a enduré pendant des millénaires. Parce que je le rappelle, les sages de Latnam, ils vont être là à travers toute l'histoire de Dominaria. Quand on a fait notre épisode sur The Dark, il était là, c'était le City of Shadow. Dans le temps de Ice Age, le collège de Latnam, il était là aussi. Et dans le nouveau Dominaria, c'est éventuellement quand Urza a créé l'école de Tolaria, c'est en partenariat avec Barin, qui est un wizard de Latnam. Donc c'est comme une espèce de société secrète là, qui va traverser les siècles. Pour tout le temps comme une espèce d'élite éclairée hein, dans les tours d'ivoire. Le problème, c'est que Mishra les convoite, qu'on va voir dans quelques instants. By the way, dans Antiquity, c'était la carte Drafna Restauration là, que tu ramenais tes artefacts dans ton graveyard. Et dans Borders War, ils ont fait la carte Urkil Master Wizard. Ça, c'est la femme de Drafna. Elle, c'est une wizard, une 2-4. À ton beginning, ton end step, si t'as casté un non-creature spell, tu révèles les 5 premières cartes de ta librairie pour chaque card type des non-creature spells que t'as là. Tu peux placer une carte de ce type-là dans les cartes révélées dans ta main et tu mets le reste à ton bottom. C'est vraiment un gros texte compliqué. Je suis pas sûr que j'ai compris ce que j'ai lu.
OK. Si tu as casté un non-creature spell, mettons un sorcery ou un instant, à la fin de ton tour, tu regardes les 5 premières cartes de ton library. Si tu as casté un instant, tu peux mettre un instant dans ta main. Si tu as casté un sorcery, tu peux mettre un sorcery dans ta main.
Ouais, elle se rappelle ce que
tu
as fait.
Planeswalker. Tu peux mettre un Planeswalker dans ta main, tu peux te casser un artefact, un enchantement.
J'ai hâte de voir si les gens vont build around ça.
J'ai pas vu beaucoup de monde la jouer.
Non, je pense pas moi non plus. Ça a l'air compliqué pour rien. Dans un peu plus commun et uncommon, hein, Flow of Knowledge, ça jouer ça. Ça c'est, j'adore cette carte-là. Tu payes 5, tu piges une carte pour chaque île que tu contrôles. J'ai déjà réussi à piger 8 cartes avec cette carte-là. En fin de game, là, ça ramasse.
J'en ai deux, moi, dans mon deck de...
Actuel?
Ouais, avec le Teferi que tu piges, tu mets des tokens.
Ah, ben là!
Ben là! Mmh. C'est un but. Ça dit « Focusser votre esprit, est-ce que tu tiens une pièce de l'océan ou une goutte de pluie? » Non, c'est Urkill.
Mille gouttes de pluie.
Ce qu'on voit dans le artwork, c'est les jeunes étudiantes, puis on voit encore les tours d'ivoire en arrière-fond. Elle fait flotter une boule d'eau. Et la carte Union of the Third Path, hein, l'union de la troisième voie. La troisième voie, c'est qu'on n'est ni du bord de Mishra, ni du bord de Urza. Hein. Nous, on est neutre. On est dans notre tour d'ivoire. T'sais, tu piges une carte, puis tu gagnes un nombre de vies égal au nombre de cartes que tu as dans ta main pour 3 en instant. Ça dit dans Favorite Text, la cité de Thérésia a finalement ouvert ses tours d'ivoire pour que tout le monde peut voir avoir une alternative à une guerre qui ne finit plus. Vous pensez-vous que ça va durer longtemps, ce paradis-là?
Ben sûrement que ça va durer pour tout le temps.
Non, à un moment donné, ils ont un visiteur qui vient les voir, Felden, Renom Excavator 2-2, Haste, qui peut pas bloquer, mais que s'il fait du dégât, tu exiles de ton top de ta librairie, tu choisis
le
nombre de dégâts qu'il a fait, par exemple deux cartes, tu en choisis une, puis tu peux la jouer.
Comment? C'est le dégât que lui reçoit, puis il peut pas bloquer, fait que c'est un peu bizarre comme carte.
Ouais, c'est qu'il faut que tu l'envoies. Si tu fais bloquer par une 9-9, tu vas choisir parmi 9-9 cartes. Le trick, c'est que si tu veux inciter l'autre à pas le bloquer pour qu'il rentre tout le temps au poste, c'est un genre de menace inversée, non?
Ouais,
c'est quand même cool comme concept. J'ai essayé dans un deck.
C'est un bon monstre.
Normalement, il faisait Lightning Bolt dessus. Comment?
C'est un bon monstre à mettre un aura dessus.
Ouais,
oui. Pour qu'il devienne plus gros.
Ouais, tu peux
Blanchwood Armor, là, tu joues Grul. Ah.
Tu peux-tu le choquer lui-même? Que ça marche?
Tu pourrais, si t'as quelque chose qui ping de 1.
Ping de 1, ça pourrait valoir la peine. Genre un genre de Prodigal Sorcerer qui le fesse à chaque tour. Là.
Ouais.
Ça peut valoir la peine. Je porte attention sur le dessin. Vous remarquez-vous quelque chose de particulier sur le dessin?
Il y a le bâton. Puis il y a un portail.
C'est pas un portail, c'est qu'il est dans un glacier, il est en train d'explorer. Là, c'est le glacier de Ronon, qui est au nord de Thérésiar. Il y a sa canne, Felden. Felden, c'est qu'il va découvrir dans ce glacier-là un artefact vraiment rare et il va le ramener pour le faire étudier à Thérésia, hein, dans les cités d'Ivoire. C'est un gros bol. Il a trouvé là, dans le fond du glacier un gros bol en métal qui est appelé le Golgothian Silex. Donc on voit là, sur la carte Loran of the Third Path. On se souvient, on avait vu Loran dans notre premier épisode sur la guerre des deux frères. Ouais. Elle était une des étudiantes de Tokazia avec Mishra et Urza qui fouillaient les artefacts Tran. Donc pendant la guerre, elle s'est réfugiée à Thérésia et elle est devenue une élève là-bas. Et elle se fait donner la tâche d'essayer de comprendre qu'est-ce que le Golgothian Silex fait.
C'est peut-être juste un bol pour mettre des chips aussi. Là,
peut-être.
Sors la salsa.
On va voir. C'est un vigilance 2-1 pour 3. À chaque fois qu'elle rentre sur Battlefield, tu peux détruire un artefact ou un enchantement et tu peux la taper pour toi et ton adversaire. Un adversaire que tu choisis pige une carte. Donc, c'est un card draw dans le blanc. Ça te dit, en tant qu'étudiante, elle a vu que le silex, non pas comme une arme, mais comme une clé vers le passé.
Ouais.
Dans le fond, c'est elle qui, c'est Felden, parce que tu sais, Felden, il ramène des choses du graveyard, hein, c'est ça que sa canne faisait dans Antiquities.
Ouais.
D'ailleurs, il a trouvé cette canne, la fameuse canne Felden Kane, il l'a trouvée dans le glacier, ça le dit dans le favorite text original. Felden a trouvé la première de ses cannes pognées dans la glace dans le glacier de Renon. Fait que tu sais, ils ont comme gardé cette storyline-là. Il ramène le Golgothian Silex et, comme pas mal tout le monde là, à Thérésia, sont comme, tu sais, ils l'étudient.
Beau bol.
Le problème, ce qu'ils remarquent pas, c'est que la gang à Gix, hein, sont un petit peu partout. Gixion Infiltrator, c'est un 2-1 pour 2 que je sais pas, que tu sacrifies un permanent, tu mets un counter +1/+1. Toi, man, j'imagine, je pense que t'avais build around ça, je pense, une fois, tu m'avais dit.
Ouais, dans mon pré-relux, ouais.
T'as-tu réussi à le rendre vraiment gros?
Ben, mon tour classique que j'ai pu faire une couple de fois, c'est caster ça tour 2. Après ça, tour 3, jouer un Evolving Wilds. Fait
ouais.
Qu'automatiquement,
ça, devenait, ça marche, ça trigger ça, ouais.
Ça devenait une
3-2. C'est cool.
Oui, mais il y a beaucoup, beaucoup d'affaires qui se sacrifient dans le set. Jouer des Mishra's Bubble que tu joues pour 0 qui t'a sacrifié. Ouais.
Moi, j'ai été déçu de me rendre compte qu'à la fin du tour de Unearth, ça compte pas comme sacrifié.
Non, parce que non, tu l'exiles.
Tu l'exiles, c'est ça. Puis moi, j'avais comme monté un deck comme ça, ouais, genre avec 4.
Tu l'as appris à la dure.
Tu l'as appris à la dure.
Ça dit dans le flavor text, la chute de la cité de Thérésia était inévitable. Les plans de mon maître sont... Tu sais, c'est le Geekshin, le Fetrator qui parle. Les plans de mon maître sont sûrs et steady, comme l'huile qui court dans mes veines. Son maître, c'est bien sûr, c'est Geeks. Geeks, le Praetor Phyrexien, a envoyé des humains phyrexianisés, hein, parce que c'est ça, là. C'est un Priest of Yagmoth.
J'aime ça, les fils partout, là.
Ouais, ouais, il est comme ça représente, c'est comme un puppet master.
Ouais,
c'est
ouais.
Vraiment nice. Puis on voit, il se promène dans les rues de la ville de Thérésia. Dans le fond, tu sais, ils ont comme infiltré longtemps à l'avance la ville pour éventuellement quand Mishra va arriver pour la prendre. Ça va être comme les traîtres à l'intérieur. Sur le Third Path Savant, qui est un 2-3 pour 3, que tu peux payer 7 pour piger 2 cartes, ça dit pendant que les armées de Mishra approchaient de Thérésia, Corlo a senti son. Corlo, c'est le, j'imagine le personnage qu'on voit sur la carte, a senti son focus et sa patience et son willpower se mélanger ensemble avec un grand respire. Il a pris une réponse de l'air. Tu sais, dans le fond, il a pigé deux cartes. On voit, il est en train de targeter un spell. Et le signpost dans le rouge et bleu, quand vous draftez rouge et bleu, ça représente, en fait, c'est la cité de Thérésia. Encore là, on voit encore les tours en arrière-fond. C'est un Human Monk 2-1. À chaque fois que tu casses un non-creature spell, tu crées un Colorless Soldier Artifact Token. Et ça te dit que tout ce que tu as, c'est un marteau. Tout ressemble à un clou. Je propose d'agrandir notre toolbox.
On peut pas ça.
Ouais, fait que là c'est ils ont reprinté pour là, j'imagine le standard de cette année, puis ils l'ont mis dans Brothers War. Demandez-moi pas pourquoi. Le Monastery Swisspear qui était dans Khan of Tharkir, ils en ont fait une version Ivory Tower, un 2 pour un rouge Ace Prowess. Ça c'est tout en bon, c'est comme la carte que je joue le plus en rouge. Donc elle est maintenant en moderne. Si tu jouais en ce moment en standard, Eman?
Pas encore, non.
Encore? C'est vraiment bizarre parce que... comme...
le noir est trop fort en ce moment.
Ouais. La moitié du monde en moderne joue Monastery Swisspear dans plusieurs façons. Là. C'est vraiment une carte surjouée. Je suis un peu tanné de l'avoir, fait que je vais arrêter cela. Je voulais juste mentionner qu'elle avait été reprint. Ce qui est cool, c'est que les Counterspells, c'est des habitants de Thérésia qui scrapent des robots de Mishra. Hein. On voit sur Scatter Ray... on voit un wizard justement. Là, ça, c'est un counterspell que tu counter un artefact ou une créature à moins que l'autre, tu payes 4. Puis on voit, il a comme ouvert la porte, puis il lance un genre de ray de lumière en face d'un robot. L'armée de Mishra a demandé les secrets du Third Path. Les suivants d'Urkil leur ont montré. Hein? C'est un genre de zing! Puis Defabricate, qui est la même chose. Là, c'est, ça, c'est pour deux. Tu choisis soit tu counter un artefact ou un spell, un enchantement. Tu vas l'exiler là, au lieu de le mettre dans le graveyard. Ou tu peux counterer un activated ou un trigger ability. Fun fact avec celle-là, j'ai déjà. Ça, tu peux counterer un unearth.
Ouais.
Puis il y a un gars, j'étais comme en top deck là. Il allait me tuer. Là. Son plan, c'était. Tu sais, il me restait pas assez beaucoup de vie. Puis s'il me tuait pas là, je le tuais le tour d'après. Puis je le voyais venir, j'avais mon Defabricate dans la main. Il arrive, il tape toutes ses lanes pour sortir son gros
monstre.
J'ai fait Defabricate ton Unearth. Il m'a stiné. On a fait venir quelqu'un pour s'estiner avec.
C'est un Activated Ability.
Activated Abilities. Fait que ça vaut la peine. Sérieusement, il y a tellement beaucoup d'Activated Abilities dans ce set-là que.
Mais là, ça veut dire que ça veut dire que là, la tour d'ivoire, là, la TNAM, ils vont être capables de sortir vivants parce que là, ils sont en train de botter les méchants. Là. Ah, c'est la Blazon. C'est quoi?
Oh.
C'est une bonne nouvelle.
Blazone est reprinté dans dans War of the dans Brothers War. La première fois on l'avait vu, c'est dans War of the Spark. Quand tu veux détruire une ville, là. Ça c'est vraiment simple, c'est un land pour un colorless, mais sinon il rentre en jeu avec un charge counter et tu peux payer XX pour mettre X charge counter dessus. Et quand t'es tanné, tu payes 3, tu sacrifies ton Blazone, tu détruis toutes les non-land permanents qui ont un casting cost de égal ou moins que le nombre de charge counter que t'as sur le Blast Zone. C'est le petit descendant du Powder Keg.
C'est pas égal ou moins, c'est égal.
Ah oui, égal. Très excuse-moi. Important. Oui, c'est Powder Keg qui était
égal.
Powder Keg, c'était égal aussi. Mais bon, écoute, la ville, parce que tu sais, comme j'ai mentionné, les Phyrexiens sont à l'intérieur, l'armée de Mishra est en avant. Malheureusement, malgré toute leur bonne volonté, la ville va se faire raser par Mishra et celui-ci va tout prendre ses ressources pour l'ajouter à son armée. On voit le Race to the Ground. Ça, c'est le 2 qu'on le laisse un rouge, un sorcery qui peut pas être counteré, hein? Ça le dit, là. Il peut pas être counteré. Fait que, ouais, tu sais, vos counter spells, là, je m'en fous. Race to the Ground, détruit target artifact. Si son mana value était de 1 ou moins, tu piges une carte. Lis-nous le flavor text, Tommy. On voit les Ivory Towers sont en train de brûler.
First one, then a second, then a third of the Ivory Towers fell to the invaders who moved in a circle around the city like an apocalyptic clock. Ouh, hein. Premier, d'abord une, ensuite une deuxième, ensuite une troisième des tours d'ivoire sont tombés aux mains des envahisseurs qui se sont déplacés en cercle autour de la ville comme une horloge apocalyptique.
Ben oui, c'est comme le bodyguard dans son armure.
Ouais, c'est le Falaji, là, j'ai oublié son nom, ouais. Ajar, je pense.
Chose en même, ouais.
Sur le dessin. Et le Apocalyptic Clock mentionné dans le Flavor Text, c'est un beau petit clin d'œil à Clockwork Armageddon qui était aussi dans Antiquities.
Ok, ok.
Tu sais, voyant que la ville va tomber, ben Urkil a fait son dernier spell, hein, appelons ça comme ça. Urkil Final Meditation, 4 colorless, 3 bleus. Tant que c'est pas ton tour, il te coûte 3 de moins. Tu retournes toutes les non-land permanentes dans les mains de leur propriétaire, puis ça termine le tour right away. Ça, c'est une réimagination de Urkil Recall qui était dans Antiquities, qui était sensiblement la même chose. C'est que tu ramenais tous les artefacts en jeu, revenaient dans la main. Donc, tu sais, ils l'ont refait là, pour le Brothers War. Fun fact, là, les Urkil Recall, ça, c'était bon avec... Tu mettais des mana vault, tu mettais plusieurs mana vault en jeu, tu les tapais pour du mana, tu faisais un Urkil Recall, ils revenaient dans ta main, tu les recastais, puis là, tu pouvais faire un Fireball vraiment massif. Je pense que Urkil Final Meditation va avoir beaucoup de jeux en Commander, parce que c'est... Le monde sont tannés de faire... C'est quoi le spell, Jonathan, déjà, là? Le Vortex, là?
Cyclone.
Quelque chose genre là, que tout, ça ramène tous les permanents dans la main. Là.
Ouais, ben tous les permanents.
Toutes les non-land. Ça, je pense que ça va être une façon budget. Parce que là, il est comme rendu à 40$ cette carte-là, là, parce que tout le monde la joue. Je pense que tous les decks qui ont du bleu là.
Ah, c'est
en Commander, là, je suis tanné.
En Commander, si tu joues bleu, tu le t'amènes dans. C'est
quoi, donc c'est Cyclone. En tout cas, le jeu Commander, c'est de quoi je parle.
Cyclonic Rift.
Ouais, merci. Et là, bon, Urkil Final Meditation, c'est un peu dans le même genre. Parce que tu le casses pendant le tour des autres, ça fait qu'il te coûte 4.
Non, il te coûte 10.
Ben non.
Ben oui.
Ah, de plus! Ok, oui, excuse. Je pensais que c'était un... Ok, ben tu le casses pendant ton tour. L'autre, c'est un sorcery, fait que c'est correct. Là, c'est un instant. Mais tu sais, à Commander, t'as pas vraiment de limite de casting cost. Là, tu rames tellement dans ce format-là que 10 mana, c'est rien. Là, c'est un pep. Donc, face à cette ville-là qui est en train de s'écrouler, c'est là-dessus qu'on va se laisser. C'est le Loran Escape. On se rappelle de Loran qui étudiait le...
Avec le bol.
Le bol, oui. Là, le Golgothian Silex. Elle va se faire donner le Silex et ils vont lui dire... Parce qu'elle a commencé à comprendre un peu que le Silex pourrait peut-être régler la guerre. Fait qu'elle se fait... ça, c'est un instant pour un blanc qu'un target artifact ou une créature a X-proof et indestructible until another turn to scry 1. Fait que là, on voit, c'est pendant qu'elle sauve là, la ville qui s'écroule et la guerre autour de elle l'affecte pas. Ça dit dans le Favor Text, pendant que la cité de Thérésia brûlait, Felden a mis le Silex dans les mains de Loran et lui a dit de courir. Et l'espoir allait courir avec elle. Elle lui dit dans le fond, fuck that, le third path. Va-t'en voir Urza.
Parce que Mishra, c'est pas deux villes qui pètent à un moment donné, là. C'est pas un méchant, pis tu sais, wow, là.
Faut choisir un cas.
Ben, c'est ça. Tu peux pas être neutre sur un train qui avance. C'est ça qui se passe. C'est... Hey, merci beaucoup, Jason. J'ai très hâte de voir comment ça se finit. J'espère qu'il y aura pas une grosse explosion pis que tout le monde meurt, là.
Ouh.
Ben, non.
Ça se passera pas, ça.
Ben, non.
Il nous ferait pas ça.
Je sais pas pourquoi tu penses que c'est ça qui va arriver.
Moi, je sais pas. Moi, j'espère que le bol, il va avoir des chips et rien d'autre. Hey, merci beaucoup, Emmanuel, d'être passé une
plaisir. Voir.
On peut te suivre sur emmanuelcôtéséguin.com, ton site.
Oui, sur, je viens de me partir un Twitter. Là, je fais la nouvelle plateforme qui
est à la mode.
Un gros boom, là, j'en entends pas mal parler. Okay.
Tu vas enfin pouvoir émettre tout le racisme que tu as voulu émettre. Je pense que ça devrait être assez cool là-dessus. Merci, Jonathan, d'être venu passer ça avec nous autres aussi. On peut rappeler le nom du jeu, surtout s'il est en vente sur Steam ces temps-ci.
Ah, il coûte une pièce sur Steam. Le jeu s'appelle Master Spy, puis le soundtrack coûte 60 cents.
OK. Donc, pour 2 piastres, tu viens de donner 40 cents de tip, donc 20%. Et merci, Jason. C'est tout un plaisant. Yeah. Moi, j'aime beaucoup ça, les périodes de lore. C'est cool, pareil, que l'espèce d'armée qui ait perdu le contrôle, les deux, mais chacun à leur façon. Là.
Ouais.
Il y a un qui soit comme manipulé par le Deep State, puis que l'autre, il soit rendu forcé par l'industrialisation, puis...
Si vous pouvez mettre la main sur le roman Brothers War, là, ça vaut vraiment la peine. C'est une excellente
chose. C'est bon, ça, parce que d'habitude, tu parles de roman de Magic, Jason, puis je prends pour acquis, c'est tout de la merde. Là, parce
non,
que,
pas Brothers War, je l'ai tout le temps dit, c'est t'en as un qui est bon, c'est Brothers War, il est excellent.
Okay.
Un excellent livre. C'est tout ce que je suis en train de vous raconter là, qui est en carte maintenant, là, mais ils ont pris ça du roman.
Quand même, hein?
C'est quand même cool.
J'ai été quand même assez impressionné que Feldon's Cane qui fasse mention du Renom Glacier dessus, puis que là, ça devienne un shit plus tard. Tu sais, quand ils l'ont écrit au début, en 1994, ils savaient pas en tout c'était quoi.
Ben là, c'était du filler.
Il a juste dit Renom, puis ouais, ouais. C'est pas pire. Ça,
ils ont regardé.
Une leçon en storytelling, peut-être. Hein? Sinon, ben merci les gars. Merci à Martin Godette aussi. Merci à l'adversaire. Merci à Bond pour les beats. À Lompré puis à la communauté. Venez nous rejoindre sur Facebook, donner de la vie à tout ça. Et je pense que j'ai tout dit. Ah oui, on est disponible sur Spotify. Et mon nom est Tommy Godette. Et je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins d'un escroc. Surtout Andy sur Arena Possible.
Oh, Andy.
De la famille H2O Web Media.